Bonjour à tous, et puis si vous voulez chercher dans vos Bibles, nous serons aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu au verset 24. Donc Matthieu chapitre 10, le verset 24, 10, 24. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Jésus, dans ce passage, prononce quelques-unes de ses paroles les plus défiantes, les plus difficiles, peut-être même choquantes pour la situation, parce qu'il va parler de grands défis, il va parler d'une persécution qui viendra contre les disciples, et il va parler aussi de leur fidélité, Jésus les demande de rester fidèles jusqu'au bout. Donc, regardons le passage, je propose qu'on lise juste les versets 24 à 39, et on verra combien de temps nous avons pour traiter le tout. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au plein jour. Et ce que vous êtes dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou? Cependant, ils n'en tombent pas à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi-même aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Dans un pays comme la nôtre, où nous aimons la neutralité, nous aimons peut-être ben oui, peut-être ben que non. Ni oui ni non, bien au contraire. Nous tomber sur un passage comme ce passage peut être effrayant. Jésus est très tranchant ici et nous voyons le besoin qu'il donne à ses disciples, hein, donc à ses apôtres ou aux 70 qui sont avec lui, de prendre position parce que la tâche devant eux est une tâche qui est très difficile. Et s'ils ne restent pas fidèles dans leur tâche, alors le royaume de Dieu ne sera pas répandu et les générations à venir seront perdues. Et peut-être, comme je vous ai dit, c'est l'un des enseignements le plus dur que Jésus donne. Il commence avec un point qui est dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Et Jésus va utiliser cela dans d'autres endroits. Dans Luc chapitre 6, il va dire la même chose. Et quand il dit que le serviteur ou le disciple est comme son maître jusqu'au point d'être accompli. Donc le but, c'est de devenir comme le maître. La deuxième fois que nous avons cela, ou une autre fois que nous avons, c'est Jean chapitre 13. Jésus lave les pieds de ses disciples. Et à ce moment-là, il va dire que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais l'idée là, c'est que de servir les autres comme Jésus, le maître, sert les serviteurs. Ici, il est en train de parler des persécutions ou des choses dites contre Jésus qui seront ensuite dites aussi contre les apôtres, contre les disciples. Mais j'aimerais quand même qu'on regarde une chose parce qu'il y a des mots qu'on n'utilise pas très souvent ici. L'un de ces mots que nous avons ici, c'est le mot disciple. Est-ce que nous pouvons juste prendre une minute pour comprendre un peu ce que cela veut dire dans le contexte du Nouveau Testament? Un disciple, donc, aujourd'hui, on pense à des gourous qui ont des disciples, et donc, ce sont des personnes qui vont dominer totalement la vie de quelqu'un à travers un enseignement, à travers une manière de vivre et autres. Quand nous regardons la Bible, qu'est-ce qu'il veut dire disciple? Est-ce que quelqu'un veut lancer une idée de ce que cela ça veut dire?
Suivre Jésus, l'enseignement de Jésus.
Donc, il y a l'idée de suivre, et ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est suivre donc au niveau de son enseignement, mais aussi au niveau de déplacement. Jésus choisit des disciples et des apôtres aussi par la suite, des gens qui vont voyager et qui vont être avec lui. D'autres choses. Donc, ce sont des gens qui suivent. Ce sont des gens qui.
Qui ne devront pas avoir peur.
Oui, donc par la suite, donc sans crainte, n'est-ce pas? En tout cas, il faut craindre les bonnes choses, n'est-ce pas? Okay. Mais le mot disciple en lui-même, un peu plus.
C'est un élève, quelqu'un qui apprend et qui obéit à ce
Okay.
qu'il enseigne.
Donc, élève, il y aura cette idée d'obéissance dans l'individu. Alors, juste pour peut-être vous donner une idée, quand on utilise le mot maître, est-ce que quelqu'un aurait juste une petite idée de comment on disait, quel est le mot en hébreu pour le mot maître? Non, en hébreu, c'est rabboni. Hein? Okay? Et donc, le rabbin était considéré le maître, et le maître, donc, avait ses serviteurs ou ses disciples, et le rabbin enseignait ses disciples toutes les paroles, toutes les gestes, toutes les actions du maître. Et l'idée d'un disciple qui était accompli avec cette idée de rabbin et disciple, c'était le disciple qui pouvait répéter par cœur les enseignements du rabbin, du maître, et de pouvoir répondre à d'autres personnes. Okay? Et donc, vous savez, si vous lisez les différents livres d'autrefois, ils disaient, selon les Juifs, ils disent le rabbin X a dit ceci, et donc ils vont répéter de début jusqu'à la fin ces différentes choses. Dans un sens, dans ce que nous avons, c'est que nous avons un apprenti ambulant, okay? Un apprenti ambulant qui est dans une communion constante, contact constante avec le maître, pour pouvoir de plus en plus ressembler au maître dans son enseignement et dans ses actions. Okay? Et c'est assez intéressant que par la suite, quand nous finissons, donc Jésus finit dans Matthieu chapitre 28, quand avant de monter au ciel, il va dire quoi? Allez, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Okay? Enseigne-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et avant cela, il va être baptisé, baptisant-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, il y a, et puis, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc, dans cette idée de disciple, il y avait le baptême, mais il y avait l'enseignement du maître, et aussi l'idée de marcher avec lui, il est avec lui jusqu'à la fin des jours. Donc, on avait des bandes de, disons, des rabbins, qu'ils n'étaient pas beaucoup, beaucoup, mais qui avaient une bande de disciples qui les suivaient. Et ces personnes étaient censées, donc, d'apprendre tous les enseignements de leur maître. Et des rabbins avaient une vie de maître et serviteur, la relation de maître-serviteur avec leurs disciples. Alors, notons aussi que nous sommes dans un contexte de mission. Jésus va envoyer ses disciples à annoncer le royaume de Dieu dans la région de Galilée. C'est de prêcher donc en plein jour ce qu'ils avaient entendu en secret. C'est de mettre à la lumière ce qu'ils avaient entendu dans les ténèbres. Et ce que j'aimerais bien que vous remarquiez ici, c'est que les disciples sont appelés à révéler tout ce qu'ils ont reçu de Jésus à tous. Il n'y a pas un plan secret pour eux et seulement pour eux qu'ils ne doivent pas annoncer aux autres. C'est pas comme il y a une information secrète que seulement les initiés ont accès à cela. Mais ici, ce sont des choses qui sont dites à Jésus, à ses disciples, quand ils sont que les 12 ou que les 70, et qui doivent être annoncées partout. Et je crois que cela est important. Il n'y a pas d'étape d'initiation. Il n'y a pas des étapes de connaissance. Ce que nous avons ici, c'est que ce que les apôtres ont appris, ils sont appelés donc à annoncer à tous. Et ça, c'est leur rôle d'être fidèles. Bolek a souligné qu'ils disent qu'ils ne doivent pas craindre. Et c'est important de savoir cela. Il ne doit pas avoir peur parce qu'il y a trois fois dans notre petit texte qui dit n'ayez pas peur ou ne craignez pas. Première fois, c'est quand on dit si on appelait le maître Belzébul, donc ils vont faire la même chose avec les disciples. Bon, c'est pas si vous savez, mais le mot Belzébul veut dire simplement maître de la maison. Okay? Au maître des maisons élevées. Et ce que nous avons ici, sans doute, c'est des références à des Baals, donc les dieux locaux, qui étaient autrefois, qui avaient des hôtels sous les collines tout autour. Et donc ces Baals, on avait un prince de ces Baals, et c'est sans doute Béelzébul. Parfois, on dit le seigneur des anneaux, c'est, pardon, des seigneurs des mouches, c'est Belzébul, mais c'est pas lui. Ça, c'est probablement une traduction, une fausse traduction qui vient d'autres du latin. Mais ce que nous avons ici, c'est les juifs dirigeants religieux regardaient Jésus et disaient, bon, il fait ce qu'il fait à travers le prince des démons, c'est-à-dire le prince de tous ces démons des collines. Vous êtes au courant que autrefois, en Suisse, on ne montait pas sur les sommets des montagnes, parce que c'est là où habitaient quoi? Les démons, okay? Les diables, etc. Diablerets, par exemple. Okay? Et c'est seulement quand les insensés anglais sont venus pour faire les sommets qu'ils ont dit superstition, qu'est-ce que c'est que la superstition? Ils montaient sur les sommets des montagnes. Et donc cette croyance de ces dieux qui sont là sur ces sommets, qui veulent notre mal, donc c'est Jésus a reçu le titre de Beelzebul, donc le maître des maisons élevées. Mais il dit cela de moi et je suis le maître. Qu'est-ce qu'ils vont dire de vous sans crainte? Donc regardez ce qu'il de nouveau il dit au verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être révélés, ni de secrets qui ne doivent être connus. Bon, n'ayez pas peur du message que vous avez, parce que ce message que vous avez est un message de vie. Okay? Ce n'est pas un message secret pour les initiés. C'est qu'ils doivent dire simplement ce qu'ils ont entendu dire Jésus, même si cela fâche les hommes. Pierre et Jean doivent plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand ils vont dans le temple après la résurrection, l'ascension de Jésus, et ils disent, à qui allons-nous plaire? Aux hommes ou à Dieu? Décidez-vous-même, mais nous savons ce que nous allons faire. Pour le juif du premier siècle, il faut savoir que les apôtres enseignaient des choses difficiles. Par exemple, les apôtres ont sans doute enseigné la destruction du temple de Jérusalem. Parce que Jésus lui-même l'avait annoncé. Et vous pouvez imaginer la tristesse avec laquelle il annonçait cette destruction que Dieu allait apporter sur Jérusalem. Jésus lui-même a dit cela. Vous pouvez imaginer aussi le choc que c'était quand ils annonçaient aux Juifs que les païens, que les non-Juifs allaient être accueillis dans le peuple de Dieu et que ce n'était plus seulement pour les Juifs, mais c'était pour tous. Et vous voyez que les premières divisions que nous avons dans l'Église, c'est la division ou les menaces de division entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive. Vous pouvez aussi imaginer les différentes difficultés qu'il avait quand il disait on ne peut pas enseigner aux autres de dire l'empereur est seigneur, quand César est seigneur. Il y a un seul Seigneur et c'est Jésus lui-même. Et donc il devait avoir un contenu du message qui parfois ne plaisait pas aux autres. Vous avez entendu cette histoire de la femme qui prie. Elle prie Dieu. Dieu, je désire seulement te plaire. Je veux te plaire à toi seulement. Et à mon mari. Parce que quand même, tu m'as donné un bon mari et je veux quand même plaire à mon mari. Et bien sûr, à mes enfants. Père, je veux te plaire, mais je veux aussi plaire à mes enfants. Et puis, à mes voisins aussi. N'est-ce pas? Dieu, il faut... Et puis finalement, la liste devient de plus en plus longue. À qui va-t-on plaire? Quelles sont non seulement nos priorités, mais qu'est-ce qui est au centre de notre vie? Et le disciple devait apprendre donc de partager ce message qui ne plaisait qu'à Dieu. Au 16e siècle, il y a Latimer, c'était un réformateur en Angleterre, il s'appelait Hugh Latimer. Et lui, il prêchait pendant que le roi Henri était présent dans l'assemblée. Et il savait que il allait dire quelque chose qui allait pas plaire au roi Henri. Et donc depuis la chaire, il a dit à haute voix à lui-même: Latimer, 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 attention à ce que tu dis. Le roi est là. Et après une pause, il a continué: Latimer, 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 attention à ce que tu dis. Le roi des rois est là. Le roi. Et c'est pas si vous savez que, mais c'est après, quand ils ont eu une reine qui était donc reine de l'Angleterre, que lui, il était mis à mort, brûlé, parce qu'il refusait de quitter le message que Dieu lui avait donné de revenir à Jésus. Et donc, il faut que ce messager écoute ce que Jésus dit et puis l'annoncer fidèlement. Et vous savez quoi que si vous dites pas bah, j'ai rien à dire aux autres, je sais pas comment annoncer les trucs, peut-être une des choses que nous faisons pas, c'est que nous écoutons pas assez ce que Jésus dit. Pourquoi pas passer un peu plus de temps dans la lecture et la méditation des évangiles? De comprendre ce qu'il a dit et puis de partager ces choses avec les autres. Donc, il dit, ne craignez pas le message que vous avez. Deuxième chose, il dit, ne craignez pas l'homme. Vous avez vu cela? Ne craignez pas l'homme. Au verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la peine avec cette phrase, mais voici ce que je comprends dans la phrase. Quand il dit ne craignez pas celui qui peut tuer l'homme, il est en train de dire ne craignez pas les persécutions qui viennent, okay, qui peuvent te ôter la vie. Okay. Et par la foi, il dira celui qui gagnera sa vie la perdra, n'est-ce pas? Celui qui perdra sa vie le gagnera. C'est-à-dire, ne craignez pas les hommes qui peuvent vous persécuter, qui peuvent vous tuer, qui peuvent même vous faire porter une croix. Mais plutôt craindre celui qui peut détruire le corps et l'âme, c'est-à-dire le Père et Dieu lui-même, qui a la possibilité de non seulement faire disparaître une personne, mais qui a la possibilité aussi de bannir cette personne, cette âme, de sa présence éternelle. Et je crois que c'est important pour nous de savoir qu'il dit ne craignez pas. Le message, ne craignez pas les hommes, mais craignez plutôt Dieu avec un respect qui est bon, qui est juste. Quand il faut décider, quand vous allez dans les villages et les gens disent taisez-vous ou changez votre message, vous changez pas, vous gardez ce message. Si à la limite ils continuent à vous refuser, donc quittez ce village. Mais annoncez ce qui est là et craindre seulement Dieu. Ici, celui qui peut détruire l'âme. Notons bien que âme ici veut dire tout ce qui est l'être de l'homme intérieur. Nous savons que le dessein de Dieu est très clair, qu'il sauve l'âme, mais il sauve le corps. Okay? La résurrection de notre corps et le fait que l'être humain totalement est renouvelé dans le dessein de Dieu montre à quel point donc Dieu est en train de nous réconcilier et d'éliminer les effets du péché. Et donc, le persécuteur ne peut toucher que l'homme extérieur. Okay? C'est la seule chose qui peut toucher. Et donc, soyons fidèles avec la foi que nous avons à notre Dieu. Et à ce moment-là, nous pouvons donc passer par les persécutions. Il est dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 14, que les hommes, ils ont peur de celui qui tient le pouvoir de la mort, qui est Satan. Et il semble que Satan a été donné pendant un moment le pouvoir de faire mourir, de faire périr. Mais il ne peut pas condamner l'âme. Il ne peut pas condamner l'être pour toujours. Je crois que dans la résurrection de Jésus, que Satan, ce pouvoir de Satan est brisé maintenant. Nous attendons la fin de toutes choses pour être totalement rachetés, mais que nous ne devons pas avoir cette crainte de la mort. Donc, c'est ça que nous voyons. Nous voyons que Étienne, que fait-il? Les Juifs vont le mettre à mort parce qu'il prêche l'Évangile. Et que fait-il? Il continue à prêcher l'Évangile et de pardonner. Que fait Jacques? Il pourrait se taire ou quitter la ville. Il le fait pas. Il sera décapité. Paul et Silas sont mis en prison. Paul et Silas sont mis en prison et ils chantent les merveilles de Dieu. Et Dieu fait secouer la prison, ils sont libérés. Ils n'arrêtent pas à prêcher. À tel point que le mot pour martyr, c'est le mot témoin, n'est-ce pas? Martyrios, témoin. Ils sont devenus donc les témoins à travers le mot. Ne pas craindre, il dit au verset 31, soyez donc sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il prend soin des moineaux. Alors, c'est pas ce que vous pensez, mais il a déjà parlé de moineaux Jésus dans le sermon sur la montagne. Vous vous souvenez de cela? Quand il parlait de combien Dieu nous aime. Les moineaux, alors ça va vous peut-être vous dégoûter, mais les gens mangeaient des moineaux à l'époque. Moineaux sont des petits oiseaux qui ne valent presque rien. Juste pour vous donner une idée, quand ils disent un sou, c'est pour un rabbin, c'est le prix le moins élevé qu'on peut échanger au marché. C'est-à-dire, on l'achète pour rien du tout, okay, pour 5 centimes, même si c'est pas exactement 5 centimes. Mais ils mangeaient les moineaux et le sou considéré comme le prix le moins élevé. Et vous pouvez imaginer manger un moineau, donc vous avez pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose. Mais ici, nous voyons qu'il dit que Dieu pense même à ces moineaux que les gens ils vont manger et qu'ils achètent pour un sou. Et après, vous êtes beaucoup plus important que les moineaux. C'est-à-dire, dans les yeux de Dieu, nous avons une valeur inestimable. Et s'il sait ce qui se passe avec les moineaux, il sait ce qui se passe en nous. Donc ça, c'est l'importance de chacun de nous. Et puis après, il dit une autre chose. Il sait même le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Okay? Et en ayant celui qui a le moins de cheveux sur la tête, peut-être Bernard et moi, nous faisons en concurrence, hein, mais en ayant cela, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire, non seulement il voit que nous sommes importants, mais il nous connaît intimement. Okay? On connaît intimement. Et c'est l'idée de nous reconnaître. Il nous reconnaît même à travers cette idée de cheveux sur la tête. Ils sont comptés. Et donc, nous vivons avec un Dieu qui nous connaît, qui nous donne une importance et qui dit ne craindre, ne craignez pas. Il dit aussi dans la suite, il dit qu'il y aura une épée qui va entrer dans la maison. Vous avez vu cela au verset 34? C'est très intéressant en lisant cela dans le contexte du Nouveau Testament où on attend un guerrier qui va venir et libérer le peuple des ennemis romains. Okay? C'est très intéressant parce que Jésus, donc, il vient et dit « Je suis pas venu pour apporter la paix, mais une épée. » Et on dirait « Super, finalement, il va parler de quelque chose que nous aimons. C'est un guerrier qui va aller contre les Romains. » Mais non, qu'est-ce qu'il dit? Ça sera une épée tranchante dans les familles. Oh, c'est pas ça qu'on attendait. Okay? J'attendais plutôt autre chose, okay? Qu'on va trancher ces sales romains et on va les faire quitter cet endroit. Mais bon, voyons ce qu'il dit. Il dit, le verset 34, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Ok. Plusieurs choses que j'aimerais rapidement voir avec vous. Okay. Jésus dit, je suis venu non pour apporter une paix, mais l'épée. Mais c'est drôle parce qu'on est dans le jardin de Gethsémané et il y a Pierre qui fait quoi? Il prend son épée, il coupe l'oreille et Jésus dit, celui qui vit par l'épée va mourir par l'épée. Jésus, il n'est pas très constant du début jusqu'à la fin, les gens pourraient penser. Mais ici, nous sommes en train de voir Jésus qui dit qu'il apporte une division dans le sens que ce que vous pensez de l'identité de Jésus va soit vous unir avec certaines personnes, soit vous séparer de certaines personnes. Et ces personnes peuvent être les gens de votre maison. Si vous ne me croyez pas, lisez Jean chapitre 7. Qui est contre Jésus? C'est les gens de sa propre maison. Okay? Lisez dans l'évangile, ils viennent le chercher parce qu'ils croient qu'il est fou, qu'il a perdu la tête. Okay? Et c'est seulement après sa résurrection, quand il apparaît à sa famille, qu'il y a un déclic et les gens commencent, ah ouais, ils comprennent qui il est. Donc quand Jésus dit cela, il comprend tout à fait le rejet que vous pouvez ressentir parce que vous suivez fidèlement Jésus et parfois vous prenez des décisions qui disent, ça je dois faire pour Jésus et je suis désolé que toi tu ne comprennes pas mon fils, ma femme, mon frère, mon mari. Mais nous faisons cela parce que Jésus est au centre de toutes choses. Quand le Messie venait, les Juifs attendaient donc la victoire sur les ennemis, mais aussi une paix. Une paix parmi le peuple. C'était le psaume 72 dit que on apporte la paix, le Messie va apporter la paix. Même Jésus lui-même est connu comme quoi? Le prince de paix à sa naissance dans Luc chapitre 2. Et nous savons aussi que Jésus dit à un moment donné dans Jean chapitre 14, je vous donne la paix, mais c'est pas comme la paix du monde qui donne. Et je crois que ici, donc, tout ce que Jésus est en train de dire, c'est que dans notre vie, nous sommes appelés à choisir. Les premiers persécuteurs des chrétiens étaient qui? C'était les premiers juifs chrétiens étaient persécutés non par les Romains, non par les Grecs. Ils étaient persécutés par leurs frères juifs. Okay? Nous imaginons quelqu'un qui va dans un pays musulman aujourd'hui. Et je partage l'évangile et les gens qui viennent à la foi et disent « Jésus est le Christ, il est le Fils de Dieu ». Qu'est-ce qui se passe dans ces situations? L'évangile apporte non la paix dans ces familles, mais une épée. Il y a une séparation. C'est ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour des gens qui veulent suivre fidèlement Jésus. Et donc, ils doivent peut-être souffrir le rejet. Et il me semble que il y a difficilement un rejet plus dur que le rejet de sa propre famille. Okay? Que le rejet de quelqu'un qui dit, écoute, tu vas faire cela pour Dieu, mais et si tu fais cela, alors je passe pas de temps avec moi, je veux pas te voir, ou je comprends pas, tu penses plus à Dieu que tu penses à moi. Etc. C'est très, très dur de vivre ces différentes choses. Mais il dit ici que c'est le seul chemin à prendre. C'est qu'on doit, et il parle fort, n'est-ce pas? Le verset 37, celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus est en train de dire, si vous mettez vos priorités sur les êtres les plus chers plutôt que sur moi, alors à ce moment-là, nous n'arrivons pas à aller jusqu'au bout de notre foi. Vous savez l'histoire de Pierre. C'est une légende, mais je crois qu'il y a de la vérité. Il va être tué et il va être crucifié à Rome et c'est sa femme qui sera aussi crucifiée et elle est crucifiée devant ses yeux, dit la légende. Et lui, vous savez quelle était sa réponse? C'était « Sois fidèle, sois fidèle. » vous pouvez dire quelle cruauté de cette personne, il aurait dû renoncer à sa foi et puis il aurait sauvé sa femme, mais en réalité de sauver sa vie, c'est de la perdre, selon Jésus. Bon, et juste au verset, juste au verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, la croix, c'est pas chacun a sa croix à porter, n'est-ce pas? Oh, si tu connaissais mon mari, tu saurais que j'ai vraiment une croix à supporter. Ouais, bon, j'ai un chef qui est, ou un ex-chef qui est comme ça, ça. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. La croix, pour eux, c'est un général romain qui a crucifié 2000 juifs en Galilée, sur les chemins. C'est de voir des gens qui portaient leur croix jusqu'au lieu de supplice. C'est ça la croix, c'est aller jusqu'à la mort en suivant Jésus. Et je trouve remarquable, et Justin sans doute le sait, mais c'est la première fois que le mot croix est utilisé en Matthieu. Ce n'est pas pour parler de la croix de Jésus, mais c'est de parler de la croix de chaque disciple qui veut suivre Jésus jusqu'au bout. Donc, Jésus va suivre, montrer l'exemple. Il va montrer l'exemple. Et c'est évidemment lui le premier qui va à la croix. Mais la première fois qu'il fait mention, c'est de cela dans l'envie de le suivre. Pour gagner la vie, il fallait le perdre. Okay? Pour gagner la vie, il fallait la perdre. Ce n'est pas une pensée de Lorient que nous avions ici. C'est Jésus qui est en train de dire, celui qui va jusqu'au bout avec moi dans ma vie, qui perd sa vie en disant oui à moi, alors il va gagner sa vie. Et si nous sommes jamais, Dieu ne nous demande jamais de donner notre vie pour lui, de ne jamais mourir pour lui. Je pense à ce passage de Galates 2.20 qui dit, pour moi, de vivre, c'est le Christ. Okay? Je me suis crucifié avec le Christ afin que c'est lui qui vive en moi. Et donc, peut-être maintenant, nous nous entraînons pour notre avenir. On ne sait pas ce que ça va être. On donnons au Christ maintenant nos vies. Je vous lis juste un petit texte et puis on terminera avec cela. C'était, je crois, l'année 110. C'est Pline le Jeune. Et pourquoi il était Pline le Jeune? C'est parce qu'il y avait Pline le Vieux aussi, c'était son papa. Et Pline le Jeune, donc, est en train de décrire de ce qui se passe dans la région où il a le pouvoir pour gouverner pour Rome. Et il écrit à son ami. Son ami qui s'appelle Trajan, qui est l'empereur, okay, l'année 110. Et donc, ils sont potes, ils ont fait l'école ensemble, ils avaient aussi fait un peu de chasse ensemble, ils avaient dragué les filles ensemble. Et voici, donc, il a un problème, et le problème, c'est que le business des ventes de sacrifices descendent dans la ville, et il y a trop de gens qui commencent à suivre Jésus. Ça, c'est son problème. Et donc, il écrit à Trajan pour dire, voici ce que j'ai décidé de faire. En attendant, donc la réponse que toi, tu vas me donner, voici la règle que j'ai suivie envers ceux qui m'étaient déférés comme chrétiens. Je leur ai demandé à eux-mêmes s'ils étaient chrétiens. À ceux qui avouaient, je les demandais une seconde et une troisième fois en les menaçant de supplice. Ceux qui persévéraient, je les ai fait exécuter. Quoique signifia leur aveu, j'étais sûr qu'il fallait punir du moins cet entêtement et cette obstination. Inflexible. On m'a remis entre les mains en mémoire son nom d'auteur, où l'on accuse d'être chrétien différentes personnes qui nient de l'être et ne l'avoir jamais été. Si, en outre, il blasphémait le Christ, toute chose qu'il est, dit-on, impossible d'obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens, j'ai pensé qu'il fallait les relâcher. Quand vous entendez cela, n'est-ce pas? Je le demandais une première fois, une deuxième fois, une troisième fois s'il était chrétien, en les menaçant de supplice. Ok? Et après, s'ils disaient « je suis chrétien », je les éliminais. Pourquoi? Parce que même si c'est pas un crime d'être chrétien, ils sont obstinés et entêtés. Et puis finalement, il dit Et je leur demande aujourd'hui de blasphémer Jésus. Ce que quoi? Un vrai chrétien ne peut pas faire. Même ce témoin païen reconnaît qu'il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour le Christ. Et perdre la vie par le martyr, mais aussi perdre la vie dans la volonté de Christ, est une manière pour nous de faire que nous vivions pour l'éternité. J'espère que cela est un encouragement pour vous.